Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est plumé pinceau. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est l'annonce météorologique que nous avons qui m'est venue en tête avec ce joli soleil. 473e émission de Plumé Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B. Aujourd'hui, si je me trompe pas, des chroniques.
Yes.
J'avoue que personnellement, c'est pas forcément des nouveautés, mais c'est des trucs que j'ai eu l'occasion de lire et que j'ai trouvé tellement bien que je me suis dit qu'il fallait les chroniquer.
Et je suis d'autant plus d'accord que mon bon Erwan, il y a tellement de BD qui sortent et en fait, on peut
et
pas tout
rate,
suivre,
coup,
on rate plein de choses et c'est bien dommage. Et en plus, il y a toujours moyen de les retrouver, il suffit de commander chez votre libraire dont on taira le nom.
Oui, d'ailleurs, il y en a une, c'est eux qui me l'ont recommandé.
Ouais.
Vous savez, celui qui a le droit d'aller sur les échelles, là, il m'a
proposé. Je crois qu'ils ont tous le droit d'aller.
C'est vrai.
Ouais. Il n'y a que nous, clients, qui n'avons pas le droit.
Ouais, c'est un peu discriminant
ouais,
ce truc-là.
Ouais, ça me gêne un peu quand même de ne pas avoir le droit de monter sur l'échelle.
Donc, des chroniques, et puis aussi de la musique, et on commence tout de suite. Allez, je vous dédicace ce morceau, mon bon Roger. Vous avez un faible pour les révérends, je le sais.
Ah, c'est vrai.
The Monsters, mené par le révérend Beatman. Et lui, c'est un type qui prêche, tu vois, il prêche, il a des trucs à te dire.
Bah, écoutez, moi je suis bluffé, vous allez me le mettre sur ma...
Mais je savais que ça vous plairait.
J'aime bien cette sensation d'entendre quelqu'un qu'on écorche vif.
je ne suis pas sûr qu'on peut dire qu'il chante. Il prêche, ça c'est sûr.
Il prêche, ouais, je vous dis, c'est un écorché, c'est un écorché.
C'est un grand son, si.
Alors, je ne sais pas à quoi il tourne, mais vous avez vu ce son de voix
c'est
écorché.
Génial.
Ouais, absolument génial.
Alors, le monde de la BD, c'est aussi le monde... C'est pas que des morts, c'est aussi des prix.
Ouais, il y a des prix, il y a plein de prix, tout le monde. connaît Angoulême, tout le monde connaît les prix de Quai
tiens,
des Bulles,
je te remets un
etc.
prix, tiens, je te remets voilà. un prix.
Et là, c'est quand même un prix dont j'ai déjà parlé l'année dernière, parce que ça s'appelle les Galons de la BD. Et ouais, l'armée, elle aussi, j'en ai parlé l'année dernière.
Vous fréquentez trop les légionnaires, mon beau Roger.
Ouais, sans doute, ouais. La délégation à l'information et à la communication de la défense, le DICOD, attribue depuis plusieurs années un prix muni d'une dotation conséquente, les Galons de la BD, afin de soutenir la création artistique autour du fait militaire. L'intention est d'offrir un autre regard sur les liens qui unissent un peuple à son armée, enjeu de mémoire nationale dans nos représentations collectives. Dit comme ça, eh ben,
ça fait sérieux.
Ça fait sérieux, et puis je crois que c'est aussi, je traduis en langage courant, lorsqu'ils disent un autre regard sur les liens qui unissent un peuple à son armée, enjeu de mémoire nationale, c'est aussi effectivement un enjeu, comment dirais-je, politique et social, parce que on est quand même, ne soyons pas hypocrites, on est quand même bien content parfois d'avoir l'armée pour faire des tas de saloperies, parfois, voilà.
Oui, et puis ils interviennent aussi après quand il y a des grands
drames. Dans des trucs aussi humanitaires, etc. Donc,
avec le plan Vigipirate,
et malheureusement, c'est pas les Ukrainiens qui nous contrediront. On vit dans un monde où si on est sans armée, eh ben on peut voir les orques débarquer, à savoir les Russes, par exemple. Hein, genre.
Exactement.
Ouais, donc on n'a pas trop le choix. Et il est vrai que parmi les prix déjà qui ont reçu l'année dernière, c'était un général des généraux que nous devions à Monsieur Buck et
Juncker.
Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est que Monsieur Juncker, il n'a pas voulu du prix. J'en avais parlé l'année dernière et il avait donné le prix au comité de soutien contre la réforme des retraites, je
ouais,
crois.
Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que quand tu lis
la BD,
l'annonce enfin, ouais. qu'il propose pour se définir et que tu regardes les BD comme celle de Book, là, il y a un décalage quand même. Finalement, on dirait qu'ils sont... Parce que ce n'est pas un album hagiographique sur l'armée.
Ah
dans
non, on
ne
peut
souvenir.
Pas dire, non. Et c'est là où justement, où ce prix devient...
C'est rigolo, quoi.
Ouais, où ce prix devient intéressant dans les gens à qui on décerne le prix, c'est que ce n'est pas vraiment des ouvrages, comme vous dites, hagiographiques sur le maréchal Leclerc, par exemple.
Ouais, parce c'est que, quand même les généraux, quoi, pendant la guerre d'Algérie.
Ouais.
Si je m'en souviens bien, et de Gaulle.
Et parmi les prix, par exemple, qui ont déjà été les BD qui ont eu des prix, il y a les damnés de la Commune, le J'accuse, 40 hommes et 12 fusils. Pas vraiment, encore une fois, des œuvres qui vont vanter les valeurs militaires.
Intéressant.
Et c'est pour ça que ce prix est intéressant. Et cette année, parmi les 110 œuvres proposées par 42 maisons d'édition, eh bien, ils en ont retenu 20. Dont certaines sur la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, le massacre des Khmers par le gouvernement communiste, la guerre de 14, l'attentat du Bataclan, les enjeux géopolitiques du Tchad, la naissance de l'État d'Israël, la guerre d'Indochine, la vie de Joseph Kessel, etc. Mais également le rôle de la femme dans les conflits. Ça nous renvoie à Plupe et Passeau, parce que nous, on a chroniqué Toujours prête, que nous devons, toujours prêtes, où il y a justement qui sont mises en avant les femmes pendant les différents conflits. Voilà. Eh bien, on vous en dira plus quand il aura été décerné. On verra s'il y a encore une polémique. Autrement, j'ai été... on parle souvent ici, parfois, de l'adaptation des bandes dessinées au cinéma. Parfois, c'est bien malheureux. Hein, le Gaston Lagaffe, qui était prévisiblement une bouse, s'est révélé être une bouse. Effectivement. Et puis il y a d'autres œuvres, hein, par contre, qui secouent, comme La mort de Staline, notamment. C'est un véritable chef-d'œuvre. C'était repris par des Anglais. Hein, ceci explique cela. Ils n'avaient pas choisi Clavier dans leur casting.
Et Valérian, vous en avez pensé quoi de Valérian ?
Eh ben, Valérian, écoutez, au niveau animation, les bestioles, il y a des scènes qui pètent bien. J'aime bien la scène où elle s'apprête à être dévorée par un espèce de gros alien lubrique, là. Vous savez, où elle comprend pas au début. Il y a une autre scène de pêche, mais quand elle se fait pêcher justement par ces drôles de bestioles, ça, il y a des passages où c'est bien, où on est véritablement dans SF originale. Et puis après, c'est le fait d'avoir fait tourner finalement tout le reste de l'intrigue autour des relations amoureuses de Valérian et Laureline, et c'est pas tip-top. Et au niveau du casting, pas tout en temps pour Laureline, mais pour le petit gars, j'ai pas trouvé que c'était tip-top.
Ouais, on en a souvent parlé, c'est les acteurs que vous aimez pas.
Et donc j'ai été voir j'ai jamais été
les
voir
algues
encore,
vertes.
Les algues vertes. Et c'est marrant parce que on voit comment une œuvre est transformée par un réalisateur. Alors, sans doute que Inès Leroux a travaillé en collaboration avec le réalisateur, sinon elle l'aurait sûrement dit, parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et ça rappelle, du coup, dans ce film, le combat d'Inès Leroux et de d'autres gens, hein, monsieur Olivreau, également une animatrice de Radio Ménée, dont j'ai oublié le nom, honte à moi, qui a été victime de plusieurs attentats. J'en avais parlé chez les Grignoux déjà. Elle a retrouvé les roues de sa voiture démontées, ses bestioles ont été larguées dans la nature, etc. Bref, et on voit comment ces femmes, finalement pratiquement toutes seules, quoi, avec quelques comités, mais du fait du poids du lobby agricole dans la région, eh ben, personne ne veut parler. Elles font face à une véritable omerta. Et ce film rend bien hommage au combat d'Inès Leroux et de toutes celles et tous ceux qui se battent pour que, si l'agriculture effectivement doit nourrir les hommes, elle ne doit pas quand même pour autant les empoisonner au passage. Et dans le film, il rappelle quand même que rien qu'en Bretagne, c'est 14 millions de porcs. Quand on renvoie ça au nombre de Bretons, on doit avoir un Breton pour 4 porcs, quoi. Il y a un peu de boulot. Donc bref, c'est une adaptation que je trouve, en tout cas, moi, fort convaincante. Alors, c'est peut-être aussi plus facile, parce que là, il n'y a pas de dimension d'humour. Le film est monté comme une enquête. On voit, effectivement, comment Inès Leroux s'empare du sujet, s'installe en Bretagne, travaille sur le sujet, fait des premières rencontres folkloriques.
Pittoresque.
Ouais, avec des gens qui la menacent à coups de pelle, un mec, puis des voitures qui passent, qui s'arrêtent, qui l'observent. Bref, c'est pas du fun. Et moi, je loue ce qui ressort pour moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est le courage de ces femmes, parce que c'est quand même essentiellement des femmes, il faut le dire, voilà, qui se battent, et, bah, même s'il y a M. Olivreau, etc., et d'autres gens. Eh bien là, en tout cas, il y a deux femmes en particulier, cette animatrice de radio et Inès Leroux, qui font un boulot formidable.
Ouais, c'est un film de Pierre Jolivet, et puis donc aussi une BD qui a été parue chez Delcourt, je crois.
C'est ça, après avoir été prépublié dans la revue du ciné.
Yes. Interlude musical, alors là, c'est marrant, c'est un morceau donc qui vous a fait penser à moi, c'est ça ?
Tout à fait, parce que le leader des Pogues, c'est bien ça.
Ouais. Sean McGowan.
Voilà, est décédé. Alors j'ai vu une partie de ses obsèques, pas beaucoup, mais je suis tombé là-dessus par hasard parce que. Mais j'ai quand même regardé. C'est dans la rue, on voit le cercueil du chanteur qui passe dans son espèce de carrosse traîné par des chevaux, un vrai catafalque à l'ancienne, et il passe au milieu d'une foule qui, au lieu d'être silencieuse, est réunie en petits groupes et chante et fait au fond de la musique et reprennent les tubes de ce monsieur. J'ai trouvé ça particulièrement émouvant.
Ouais, ça a été un grand moment, effectivement, de communion en Irlande. Donc, un morceau des
Pogues,
du coup.
Voilà, parce que c'est un morceau que vous aviez déjà passé un hommage aux Pogues, mais quand j'ai redécouvert ce morceau, je me suis rappelé que j'avais un ami avec qui je fais une émission de radio qui, lorsqu'il est bien sous, c'est ce qu'il chante. Donc,
refrain,
voilà,
ouais.
c'est pour vous aussi.
Mais après, c'est votre ami imaginaire, ça n'a jamais existé.
En tout cas, au moins le refrain. Je ne sais pas s'il se rappelle de tous les couplets, mais le refrain, ça, je me rappelle.
It's sad to say, I must be on my way. Ouais, c'est exactement. Bon, bah alors, l'époque, Sally McLellan. Naturally played on Monaghan, the pub where I was born. He played a thing, the best of times, at peaceful early morn. He sold the souls of cycles and the men of had the horn. They all are very happy in the morn. But Jimmy didn't like his face and the swirl of hers. When he had the man's and saw his sex and he had too many powers. Said I'm sad to see the grieving of the people that I believe in. And he took the road for God knows in the morning. We walked into the station in the rain. And we kissed him as we put him on the train. And we sang him a song, a time's long gone. Though we knew that we would see him again. Bye! To say I must be on my way. To buy me beer and whiskey cause we're going far away.
Far away!
To think of me returning when I can. To the greatest little boozer and to Sally McLellan. I learned to love the virtues of Sir Sally McLellan. I took the chairs and drank the beers and crawled up on the dawn. And I ended up a barman in the morning. I played the pump and took the hump and watered whiskey down. And talked to hoes and horses to the men who drank the brown. I heard them say that Jimmy's making money far away. And some people left for heaven without warning. We walked into the station in the rain.
And we kissed them as we put them on the train. And we sang them a song, a ties long gone. Though we knew that we'd be sailing again.
But I
to say, I must be on my way. So buy me a beer of whiskey, cause I'm going far away.
Far away!
To think of me returning when I can to the greatest little boozer as a sunny man. When Jimmy came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people, they were scared and jumped at Jimmy drank until he drunk and took the road for heaven in the morning. We walked into the station in the rain. And we kissed him as he put him on the train. And we sang him a song of times long gone. Though we knew that we'd be seeing him again.
Far away!
To say, I must be on my way. So buy me beer and whiskey, cause I'm going far away.
Far away!
To think of me returning when I can to the greatest little boozer at a sunny Lanan.
Et en live, en plus, vous m'avez ramené une version en live.
Eh ouais.
Sympa, merci Roger, c'est cool.
C'est à vous pour les chroniques alors.
Ouais, ben écoutez, moi je vais vous parler d'un diptyque. Christian Chavassieux et Cédric Fernandez ont publié un diptyque aux éditions Glénat autour de la figure, alors je sais très controversée, mais que je trouve quand même fascinante par l'épopée qui lui est associée, c'est la figure de Cortés, conquérant du Mexique. Et finalement, on peut dire aussi, par mimésis, celle de l'empereur Moctezuma II. C'est vraiment l'histoire de le duel un peu de ces deux personnages, la relation de ces deux personnages qui est mis en avant dans ce récit historique. C'est-à-dire qu'on va nous raconter bien évidemment la conquête du Mexique. Hein, remettons le contexte, on est à la fin des débuts du XVIe, dans les années 1520 à peu près, 1519. Charles Quint se lance un peu à la dans l'exploration, appâté par les Portugais et tout ça, par Marco Polo, etc. Parce que il a besoin de thunes. Et donc c'est le temps des hommes ambitieux, des Espagnols qui n'ont plus rien à perdre et qui vont tenter leur chance dans des expéditions outre-mer, et notamment Hernán Cortés, quoi, finalement.
Et je crois que Pizarro et Cortés viennent de la même région, région un peu désolée dans le sud de l'Espagne.
Voilà, quand t'étais pas le premier fils, etc. Va gagner ta vie, démerde-toi avec ton honneur et ton épée, quoi.
Ouais.
Et Hernán Cortés, c'est ça. Et donc là, l'histoire commence. Ben il est à Cuba là. Vraiment, on va suivre en fait ce qu'on sait de l'histoire de Cortés officiel. Donc il est à Cuba et puis il se dispute un peu avec le gouverneur local Velázquez, si je me souviens bien. Et il part à l'aventure quand même. Et du coup, il arrive à Mexico. Ensuite, il a tout un tas de coups de bol. Il rencontre Aquilar, un naufragé espagnol qui connaît un peu les populations locales, qui va pouvoir lui servir de guide. Il va rencontrer la Malinche, quand même. Personnage qui est intéressant, quoi, parce qu'ambigu quelque part, selon comment tu la lis, si du point de vue autochtone ou du point de vue espagnol, c'est pas du tout la même lecture. Bref, la rencontre avec Montezuma, les alliances, les conflits, la noche triste. Enfin, vraiment, on va suivre toute l'histoire et l'épopée, le destin de légende de Cortés. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on s'intéresse aussi beaucoup à Moctezuma. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est cet empereur donc qui va voir débarquer les Hidalgo espagnols là, qui arrivent de Cuba, qui viennent chez lui, qui viennent jusque dans sa capitale, qui jusqu'à un moment même le retiennent prisonnier, quoi. Et c'est comment son peuple se détourne de lui. C'est un destin assez tragique, Moctezuma. Et
plus je trouve que tragique, il va finir égorgé dans une.
Il va se faire presque lapider par sa population. En fait, et c'est assez intéressant parce que du coup, il y a un regard assez progressiste dans le sens où on va vraiment chercher beaucoup maintenant aussi le point de vue des Indiens. On essaye de mettre en évidence les deux perspectives, quoi. On aurait pu se contenter de faire un truc très légendaire autour de Cortés parce que c'est vrai que c'est fascinant ce qu'il a fait. découvrir un nouveau monde, c'est un truc de dingue, débarquer comme ça, trouver des civilisations, des nouveaux animaux, des nouvelles plantes, naviguer à vue, c'est dingue, c'est le type qui brûle ses vaisseaux pour pas partir en arrière, tu vois, c'est romanesque quelque part. Et là, je trouve qu'ils arrivent bien à contrebalancer en mettant donc notre empereur mexicain, enfin Aztec, aussi sous les projecteurs. Et ça, c'est vachement chouette. C'est un chouette diptyque, vraiment bien.
Mais ça s'appelle comment, Moctezuma?
Cortés. Cortés, ouais, ça s'appelle Cortés. C'est donc scénarisé par Christian Chavassieux, ou interprété, réalisé par Christian Chavassieux, on peut vraiment dire ça. Et au dessin, c'est Cédric Fernandez. C'est un dessin, bon, assez classique. Légèrement teinté d'un peu ce petit coup de crayon arrondi, grands yeux à la Walt Disney quelque part, mais il y a des bonnes scènes de baston qui sont plutôt dynamiques. J'ai bien aimé notamment le deuxième album avec l'épisode de la Noche Triste, tu sais, quand les Mexicains vraiment vont jeter sur les Espagnols qui tentent d'évacuer de la capitale.
Il s'en est fallu de peu.
Ouais,
c'est dommage. Enfin, l'histoire en eût été changée, quoique les pauvres d'autres Espagnols seraient arrivés, mais par contre, les Indiens auraient fini par y passer parce qu'il y avait la variole. Parce que quand il va revenir quelques mois après la Noche Triste, en fait, il va découvrir une ville pratiquement à l'abandon. Ils ont chopé la variole, ils sont morts par milliers.
Ouais, mais les scènes de bataille, notamment donc lors de cet événement-là, dans le deuxième tome, sont vraiment très réussies. C'est super cinématographique. Tiens, regarde, tu vois, il y a vraiment le chef aztèque avec toutes ses plumes et sa machette au milieu des Espagnols en complète panique. Vraiment, par moment, c'est hyper cinématographique. C'est vachement intéressant. Et je te dis, finalement, les approches psychologiques des différents personnages sont bien. La Malinche aussi, elle est bien montrée, bien mise en avant, justement, avec finalement le cul entre deux chaises. Je trouve qu'il y a une interprétation très judicieuse de cette histoire. Donc vraiment, je vous le conseille. Deux tomes, Cortés, édition Glénat, Christian Chavassieux, Cédric Fernandez. Voilà pour moi.
Eh ben moi, je vais continuer par quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Mais alors là, absolument rien à voir, puisqu'il s'agit...
Il y a du pipi et du caca ?
Du pipi, il y en a un peu.
Ah, voilà,
à un moment donné, il y en a un peu. C'est un ouvrage que nous devons à Salomé Laroche, Ernestine. Alors...
On en parle beaucoup de ce bouquin.
Ah ben, et on en parle beaucoup, et Roger, il vous en parle, et Roger, il l'a acheté.
Ah ben oui, mais là, c'est l'underground, pointu, ouais, Requin-Marteau, tout ça,
ouais,
c'est
ouais.
Édition Groukmout, ça, c'est votre cam, hein, je suis
voilà.
Désolé.
Et là, c'est chez Même Pas Mal, en fait. Bon, c'est chez Même Pas Mal.
Même pas surpris.
Et il faudrait vous méfier, et parce que cet ouvrage-là, contrairement à sa couverture, à son dos, où on revoit le nom de l'album, hein, Ernestine, sa couverture
c'est
épaisse.
C'est un piège.
C'est ta couverture épaisse. Et cette découpe.
Ouais.
Cette découpe, et effectivement, on voit le visage d'Ernestine. Alors, je vais vous décrire Ernestine. On voit un dessin un peu enfantin, très coloré, plein de couleurs. Salomé Laroche, Ernestine.
J'ai une remarque.
Une espèce de jolie maison, visage d'une petite fille qui est un peu ambiguë. On sent qu'elle fait la gueule un peu.
Elle est rousse, comme par hasard.
Ah, mais dans la BD, si vous voulez que ça marche, vos héros doivent être roux. J'espère que vous l'avez pigé quand même.
Ouais, je sais bien, mais là, c'est le roux diabolique, je le sens.
Ah, il y a un peu de ça, mais elle a peut-être des excuses, hein, Ernestine. Elle a peut-être des excuses. Alors, Salomé Laroche, à travers. Ben là, voilà, on ouvre et on voit la maison disparaît et sur fond jaune, on voit Ernestine qui fume une grosse clope en tenant son petit lapidou. Bref, Ernestine, comme le sous-entend également la troisième page, Ernestine est un petit peu possédée. Un peu possédée dans la mesure où quand même Ernestine fume des clopes, elle est en CM1, hein, Ernestine.
Ouais.
Fume des clopes, prend des cachetons, parle comme un charretier, crache à la gueule des gens de l'école qui lui plaisent pas. Bref, une punk. Et j'en reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure à propos d'Inès Leroux et de toutes celles qui se battent là contre le monde. Et j'en rappelais aussi de Madame Peach, Mademoiselle Peach, je sais pas comment on dit, War and Peace, qu'on aura peut-être un jour quand on aura embauché une interprète.
Je vous laisse, mais vous placez encore votre fiancée un
peu.
Ouais, ça commence à sentir le népotisme ou un truc dans le genre. Tiens.
Mais non, mais moi je dis,
désormais, les
vrais punks, et je dis bien punks,
c'est des filles.
C'est des filles, c'est clair. Cet ouvrage-là m'a justement été chaudement recommandé par la vendeuse de la boutique dont nous tairons le nom. Et elle a eu raison, parce qu'effectivement, on s'amuse bien à travers le personnage de cette gamine dont on ne sait si effectivement c'est parce que on a une tentative d'explication. Hein. On a donc une série de courtes histoires à travers laquelle on voit les mille et une aventures d'Ernestine. Ernestine fête Halloween. On la voit se pointer devant le pharmacien et puis la baraque du pharmacien, et le pharmacien lui ouvre et elle lui dit ah mais t'es pas déguisée. Elle dit non mais moi je viens pas là pour ça. Je sais que vous vendez des tranquillisants aux gamins du skatepark. Mon frère en fait partie. Alors pour moi, ça sera 3 boîtes de Temesta. Et... Bref, elle fait chanter le pharmacien. Ernestine, elle est assez trash. Et justement, on a
sous des dehors enfantins, elle est plutôt bourrue.
Voilà, sous des dehors bourrue, elle reste un peu bourrue. Voilà, on a une tentative d'explication à l'issue de la première histoire, lorsque la maman, discute avec son mari du cas d'Ernestine. Elle se dit, est-ce que tu crois que ça serait pas parce que j'ai mangé des champignons pendant toute ma grossesse? Allez savoir. Ou alors, Ernestine est possédée par le démon, ce qui est possible dans la maison où ils habitent. Bref, Ernestine de Salomé Lahoche, aux éditions Même Pas Mal. Et vous dites que vous en avez entendu parler où alors, mon bon Erwan?
Mais je crois que c'était dans Quotidien, carrément.
Ah ouais?
Ah ouais, à la Téloche.
Eh ouais, bah ça m'étonne pas.
Par l'affiche Allumeau.
Eh ouais, eh ben ça m'étonne pas. Ernestine, Salomé Lahoche, on en reparlera. Salomé Lahoche, alors justement, j'ai même sorti une petite note biographique.
C'est
parce
votre nouvelle fiancée?
J'en sais rien, faut que je voie. Vous savez, il y a
on
déjà...
On coupera ça au montage, non?
On va couper.
Ah, regarde, il y a l'ami Bertrand qui gratte à la forte.
Ah non, dites-lui qu'on enregistre. La vie est une corvée, c'est son autre ouvrage dans lequel elle doit compiler 2 ans de strip autobiographique que j'ai pas vu. Moi, je l'ai vraiment découvert avec Marion. Et c'est une heureuse surprise. Mais bon... Voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, malgré la présentation qui pourrait abuser son monde.
Interlude musical, vieillerie, ça va vous... Enfin bref, Moon Vampire Suicide. Dance, dance to the radio, comme si on était en 82, quoi.
C'est clair.
C'est des petits jeunes, Moon Vampire, qui font vraiment comme des anciens. Le morceau s'appelle Suicide. Ils cochent toutes les cases. J'adore.
Seigneur Jésus.
Est-ce que vous aimez La Balle aux prisonniers ?
Oui, moi j'aimais bien quand j'étais petit.
Eh ben écoutez, j'ai une BD de science-fiction qui tourne autour de ce sport, j'ai envie de te dire. La Balle aux prisonniers. J'ai découvert, vraiment en retard, hein, parce que l'album date un petit peu, Bertrand nous dit, de toute façon on nous dirait, mais vous, là vous faites vraiment du vieux, je crois.
Bertrand il a trois planètes, je vous ai déjà dit, il s'en fiche.
Tout ce qui dépasse 15 jours, c'est vieux.
C'est vieux.
Là, c'est vieux. Je crois que ça date de 2023, c'est pour ça que je dis ça. Ça s'appelle Mécanique Céleste, c'est paru chez Dargo. Scénarisé et dessiné par Merwan. J'ai découvert ça en allant au Champ Libre, hein, tout bêtement. Et c'est super bien. C'est un album autour de la balle aux prisonniers. En fait, on est dans un monde post-apocalyptique. On n'est pas loin de la ville de Fontainebleau et on va suivre finalement un personnage hyper attachant, une rouquine.
De toute façon, si t'es pas roux dans la BD,
tu perds pas.
Je veux dire. Dans le cinéma, faut coucher. Dans la BD, faut être roux.
Ou alors t'as un gros néron.
Voilà.
Là, tu peux peut-être.
Tu peux peut-être.
C'est Aster. Aster, c'est vraiment les. En fait, elle a accroché à son petit short une queue de renard, tu sais. Et c'est vraiment que ça, vraiment, ça la symbolise, quoi. C'est son animal totem. Elle a cette espèce d'espièglerie et puis de marginalité parce qu'en fait, elle vit aux abords d'une cité agricole qui s'appelle Pan, tu vois, où on produit du riz et on vit autour de ça. Il y a des pirates dans le coin. Elle est un peu entre les deux. Elle fait pas partie de la communauté. Elle est vaguement acceptée. Mais on la regarde de haut. Et en fait, un jour, la communauté de Pan va voir débarquer un bateau qui vient d'une autre cité qui, elle, est plus évoluée technologiquement et qui, en fait, je dirais pas vient coloniser, mais bon, une communauté agricole.
Les aider à se développer.
Voilà, okay. C'est ça. Il y a comme un échange un peu avec un pistolet dans la poche, quoi.
Ouais.
Et en fait, la cité d'où viennent ces conquistadors, encore une fois, il y a deux partis politiques qui s'y affrontent. Un majoritaire qui tient le pouvoir et qui est un peu dictatorial, et puis une espèce de contestation dont un des membres de l'expédition des conquérants fait partie. Et il va avertir cette petite communauté de Pan qu'il y a moyen de résister à la colonisation. C'est de jouer à la mécanique céleste, ce qui s'avère être en fait des parties de balles aux prisonniers. Et en fait, Aster et puis différents membres de la communauté de Pan vont se retrouver à affronter dans des espèces de matchs télévisés les deux composantes de la cité conquérante. Donc ça te fait trois matchs, si tu veux, un à domicile et deux autres matchs, et c'est des parties de balles aux prisonniers.
Ouais, c'est rigolo.
Et ouais. Et ça devient un grand. C'est un côté Hunger Games parce que c'est télévisé. Tu vois les deux commandeurs. Non. Mais les enjeux sont hyper importants. C'est la liberté ou la conquête, hein, ou l'asservissement qui est en jeu. Et puis il y a ce personnage féminin très très fort qui va se révéler hyper bonne à la balle aux prisonniers et qui justement quelque part va mettre les gens de Pan qui la regardaient de haut un peu en contradiction aussi. C'est la marginale qui, en fait, elle a une espèce de vision en plus qui est annonciatrice parce que cette Aster a un rêve où elle se voit une balle à la main. Mais comme pétrifiée, statifiée, quoi. Et en fait, c'est parce que elle va finir comme devenir l'héroïne et le personnage majeur à qui on dresse des statues. C'est vachement bien, c'est hyper rythmé. J'aime beaucoup le dessin de Merwan, ses couleurs. Il y a vraiment une galerie de personnages hyper sympa. Et puis il arrive à faire que c'est vraiment un peu comme ces mangas, tu sais, qui tournent autour de sport. On te raconte des matchs, tu sais, de foot ou de hockey ou de machin. Bah là, des matchs de balle aux prisonniers. Et en faisant des films, quoi, avec plein de rebondissements, des interrogations dans l'équipe et de coups, des sacrifices et tout. Et vraiment, c'est là où Aster, elle est vraiment la plus drôle, quoi. C'est vraiment super réussi. Je suis très vexé de ne pas l'avoir chroniqué à l'époque, mais je me rattrape. Excusez-moi,
c'est très
monsieur
bien.
Merwan.
Et 2023, je suis désolé, c'est pas si vieux.
Mais votre Mécanique Céleste parue chez Dargo est une tuerie à mes yeux. Je vous en remercie. Voilà pour moi. Qu'avez-vous, vous ? Alors attends, c'est quoi ? Il y a du pipi, il y a du caca ?
Non.
Ah !
Mais
il y a des cadavres. Il y a des cadavres.
Ça s'appelle Hubert et Joshua. C'est paru.
Sont deux amis.
C'est paru aux éditions Exemplaires. Je suis content.
Comme par hasard.
Ah bah oui. Alors comment? Je suis content parce que j'en chronique pas beaucoup parce que je suis un peu une grosse merde. Je vois, ils disent
non.
Oui. Mais si, mais il faut le dire quand on vous annonce mais sur non. Instagram le bouquin, on dit oui si vous le précommandez avant, et ben comment dirais-je, voilà, vous aiderez à sa parution. Tirouli tiroula. Je coche et j'oublie toujours d'envoyer les sous, ce qui fait qu'après je suis obligé de faire chier le libraire dont je t'ai le nom pour qu'il me le commande. Et ça prend du temps un peu, c'est normal. Et c'est bien fait pour ma gueule. Et c'est dommage parce que sinon, ça fait longtemps que je vous aurais parlé de Hubert et Joshua, de monsieur Dara Nabati. Alors, Dara Nabati, il est né en 92 à Paris. Donc, c'est toute une nouvelle génération d'auteurs de BD parce que tout à l'heure, je parlais de Salomé Lahoche. Elle est née en 97. Oui, elle est même plus jeune que mon fils, vous voyez un peu.
Vous
et comment dirais-je, Dara Nabati, je vous dis 92, vous voyez, sensiblement l'âge de mon fiston. Et comment, il y a toute une génération, et ça me fait bien plaisir, d'auteurs qui ont choisi l'humour et du non-sens. Alors, autant chez Salomé, c'est la BD qu'on peut pas mettre entre toutes les mains. Chez Hubert et Joshua, les deux amis Hubert et Joshua, ça n'a strictement rien à voir. Regardez-moi ces têtes de débiles profonds qu'ils ont là-dessus.
Un trait très très simple qui va vraiment à l'essentiel.
Voilà, c'est-à-dire que vous savez comment j'adore toutes ces BD qui sont effectivement qui peuvent paraître au niveau du dessin hyper simpliste, hein, parce que Hubert et Joshua sont deux personnage vaguement anthropomorphe. Il y en a un, il est souvent, comment dirais-je, il ressemble à une espèce de haricot vert posé.
Avec
trois dents et six cheveux. Et Joshua, lui, on dirait Pac-Man. Il est jaune.
Ils ont des têtes d'amibe.
Ouais, mais ils sont quand même vaguement humanoïdes, hein, quand même.
Y a un faux côté Gary Larson.
Sauf que Gary Larson essayait quand même de rendre ses personnages vaguement ressemblants. Un être humain ressemblait à un être humain, etc.
Dans le rapport à l'amibe.
Là, ouais, peut-être. Dans les épisodes de Gary Larson pour les amibes. Mais alors, il n'a retenu que ça, M. Dara Nabati. Et Hubert et Joshua, c'est quoi ? C'est deux crétins. Alors, j'avais justement conseillé au libraire, dont je tairai le nom, quand ils l'ont commandé, je dis, quand vous le recevrez, essayez de jeter un coup d'œil, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et ils m'ont regardé quand j'ai été le récupérer, ils m'ont dit, yes, c'est bien con. Yes, et ils ont ri. On rit tout de suite, par exemple, avec l'histoire du backflip. Le backflip, c'est quoi ? Hubert, en sortant de chez lui, se prend la tête, comment se prend les pieds dans le paillasson. Il va glisser, horrible, il glisse. Et comment, pour éviter de percuter la mémère du cinquième, il doit faire un backflip parce qu'il dit si je la touche, je vais sentir son parfum pendant 2 semaines. Et résultat des courses, il sait pas faire le backflip, il tombe sur la mamie. 5 minutes après, on le voit sur un bond et Joshua lui dit toi, t'as encore percuté la mémé du cinquième, faut que t'apprennes à tout prix à faire le backflip. Non mais vous voyez le niveau. Jean, on est chez les dingues. Et on croit à chaque fois que dans l'humour surréaliste, dans l'humour dingo, on a touché le fond. Eh ben non. Non. Avec Dara Nabati, on va encore plus loin.
On creuse.
Et moi, je dis, ces gens-là, ce sont des véritables précurseurs, des... Comment pourrait-on dire ? Des soutiers de l'humour... Underground de chez Underground, il doit y avoir quoi ? Allez, s'il y a
Underground avec un N au début.
Voilà. Et est-ce qu'il y a 1500 exemplaires de Hubert et Joshua à travers toute la France ? Je n'en sais rien. Je tiens à le dire. Vous pouvez le commander directement aux éditions Exemplaires. Donc, je rappelle quand même que le principe de ces éditions, de cette structure alternative créée notamment par Lisa Mandel, essentiellement Lisa Mandel, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est l'âme pensante.
Se donne pour mission de replacer l'auteur ou l'autrice mettent au centre de la production de son album avec une meilleure transparence, de meilleurs droits, une meilleure rémunération et une plus grande liberté. Et donc Exemplaire propose un outil permettant à l'auteur, l'autrice de mener des campagnes de crowdfunding, de bénéficier d'un suivi éditorial et de conseils tout au long de la conception de son album jusqu'à son impression et à sa distribution. Voilà, voilà. Je remercie les éditions Exemplaires et Dara Nabati. Alors j'avais mis plein de coches, vous voyez, j'avais mis plein de marques tapage, mais en fait, c'est là où je me rends compte.
Il ne faut pas tout lire, Roger.
Ouais,
il ne
faut pas. C'est là où je me rends compte qu'on ne peut pas. Alors je vais essayer de décrire.
On ne peut pas, Roger.
Les personnages ressemblent à rien. Il y en a un, il a un pull violet, l'autre a un pull vert, on les reconnaît un peu vaguement.
Il y a un héritage Trondheim quand même quand tu me montres ça.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai et c'est bien que je vous montre
cette manière de il y a pas de cadre, il y a juste un fond arrondi en arrière-plan, tu vois, il y a pas de décor, c'est les personnages ou alors tac de temps.
Ouais. Ça fait presque penser, vous avez raison, au petit. Ça pourrait être. Ça, c'est une genre de BD qui pourrait être animé assez facilement et que ça pourrait marcher.
Oui, mais qui va tourner ça? Un fou.
Je veux dire,
même Quentin Dupieux, il peut pas ça.
Si, il pourrait, procrastination. L'épisode sur le permis de conduire, c'est énorme. On voit Joshua au volant de la bagnole, il dit c'est bizarre, parfois je fais des trucs et au bout d'un moment. Ça me fait chier de faire ces trucs-là. Et il est au volant, puis on voit dans l'arrière-plan des vélos qui volent, des piétons qui passent par-dessus la bagnole. Et son pote est complètement vert. Et il dit, c'est comme si, tu vois, je sens que je suis obligé de rappeler, on me rappelle qu'il faut que je fasse quelque chose, mais ça me fait chier. Et tu vois, et Joshua lui dit, ça te dirait de passer le permis? Et l'autre dit, j'ose pas de sujet. Bref, c'est énorme. C'est totalement énorme. C'est très, très con. Merci les éditions Exemplaires. Merci monsieur Dara Nabati de plonger avec vous dans le monde encore de plus en plus ténébreux et profond de l'humour sans bornes.
Dance, dance to the Red Rio, The Soft Pact, Pull Out. Peace of Pact, Pull Out, un peu de rock and roll. Vient de s'achever une série que j'ai vraiment trouvé super, en 5 épisodes. C'est un peu long, mais franchement, ça vaut le coup. C'est Saint-Elme. Serge Lehmann, scénariste que je trouve hyper doué. L'homme gribouillé, la phalange... vraiment un scénariste hyper intéressant. Et Frédéric Peters, alors là aussi, un dessinateur hyper intéressant, se sont associés pour nous proposer une série Saint-Elme que je trouve vraiment très réussie.
Saint-Elme comme les feux?
Oui. Ça commence avec effectivement un feu de joie, j'ai envie de te dire. Donc ils nous ont proposé une série en 5 épisodes que je trouve vraiment bien. Alors ça commence en fait avec l'arrivée d'un détective qui s'appelle Franz Sangaré, avec son assistante. Une dame assez étrange qui s'appelle Madame d'Ombre. Il débarque à Saint-Elme. Saint-Elme, c'est une espèce de ville qui a des côtés très suisses, tu sais. Un côté...
C'est propre ?
Ouais, enfin non, justement, c'est-à-dire c'est...
Ah ben c'est pas suisse, alors.
Il y a du casino, il y a de la banque, il y a des...
C'est dans les montagnes. C'est du côté suisse français.
Il y a des montagnes, etc., etc. Saint-Elme, c'est vraiment une espèce de Babylone. De Babylone, qui est tenue par une famille, tu sais. La mère est corrompue jusqu'à la moelle par cette famille-là, etc. Qui vit notamment pour l'eau de source, en fait. Saint-Elme, c'est aussi une eau de source très réputée. Et notre Franck Sangaré débarque là à la recherche d'un petit bourge qui est un fugueur disparu, quoi. Et en fait, dans son enquête, il va pénétrer dans le monde interlope et underground et limite légale de Saint-Elme. Notamment, il va rencontrer en conflit avec la famille dominante du coin. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a au départ il y avait vraiment plusieurs histoires parce que parallèlement à l'arrivée de notre détective et on voit dans les montagnes une voiture, une camionnette qui arrive dans le premier épisode comme ça s'ouvre sur cette scène, la camionnette arrive, 2-3 types patibulaires mais presque en sortent et notamment un black et il aperçoit un dessin sur la fenêtre de la maison où ils viennent d'arriver. On sent le trafic de drogue, tu vois, à plein nez. Donc, il y a une transaction aussi en cours. Et il voit donc sur une fenêtre un symbole dessiné. Et là, il va sortir son flingue et tirer sur ses comparses ou les enfermer. Et il va aller, en fait, dans la pièce où il a vu cette marque. Il va trouver une petite fille, une petite blague qui avait été qui est retenue en otage. Voilà, on ne sait pas. Donc, tu vois, il y a cette histoire-là. Et puis, l'histoire de la famille qui est sur un projet... mais qui crée des débats à l'intérieur de la famille, une espèce d'avancement. L'oncle et la fille essayent de pousser à la roue le père, qui est un gros con, mais vraiment un gros con. Mais c'est lui qui a les manettes officiellement du pouvoir. Et il y a une espèce de guerre interne aussi. Enfin, tu vois, il y a vraiment trois univers, tac, 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 reliés par la ville, finalement.
C'est Dallas, votre histoire.
Ouais, il y a un côté Dallas. Il y a aussi une nana qui est venue en tourisme avec son père, qui croit voir sa femme défunte. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs qui vont se mélanger. Et tout ça va s'équilibrer. Et ça te fait vraiment un polar avec une petite dimension magique, magie africaine, ce côté Dallas, comme tu dis, intrigue familiale, complot, il y a des personnages, c'est des gros cons, il y a des personnages qui font peur, c'est vraiment riche, c'est vraiment une grande galerie portrait, c'est super réussi. Et Peters au dessin, moi je suis fan, dans le premier épisode là, que j'ai ramené pour vous le chroniquer, là, j'ai rouvert à un moment, il y a une scène folle, dans la nuit à Saint-Elme, qui est vraiment t'es sous acide, quoi. Tout est de couleur néon.
Ils en mettent avec le livre, avec le livre.
Rien qu'à regarder, t'as les effets. Il y a un côté Las Vegas, Macao, enfin, c'est assez terrible. Et puis, il y a une vache qui brûle, voilà. C'est aussi ça, vous évoquez les feux de Saint-Elme, et il y a aussi une vache qui brûle dans le premier épisode.
Ah ouais, quand même.
Il y a des effets spéciaux et tout, c'est dingo.
Vrai, c'est vrai que vous êtes fort pour cow, c'est ça
Cow
Cowboy
Comme les cowboys Private joke
Serge c'est Lehmann. C'est pas gentil, mais vous m'avez tendu là.
Ouais. Serge Lehmann, Frédéric Peters... Saint-Elme, donc 5 épisodes, c'est paru chez Delcourt. En plus, je trouve qu'ils ont vraiment bien soigné les albums avec des très très chouettes couvertures. Ah oui, il y a des grenouilles, plein de grenouilles partout. Il y a des tas de grenouilles. Les grenouilles sont importantes dans cette histoire. Des jolies petites rainettes comme ça avec des yeux globuleux. Bloup, bloup, bloup.
Et non, c'est chez Delcourt, vous dites ça.
C'est chez Delcourt, ouais. C'est vraiment bien. Voilà, je vous conseille donc d'investir dans cette série.
Eh ben non, vous savez pourquoi les gens vont pas investir dans Saint-Aignan?
Parce que vous allez me contrer avec quoi? Du pipi, du caca?
Avec Chronique du Château Faible, que nous devons au talent de monsieur Mazury, Jean-Christophe Mazury, si je dis pas de bêtises. Je vous en ai déjà dit le plus grand bien à travers, deux, trois bouquins, dont un, je me suis rendu compte que je l'avais acheté 7 fois. Vous y croyez, vous? Je l'ai acheté 7 fois, c'était...
vous avez offert, du coup?
Bah, je me le suis offert pour moi et après je l'ai réoffert 6 fois. Et en fait, il s'appelle, comment dirais-je, Torrent d'amour. Un ouvrage totalement délirant. Aujourd'hui, j'avais décidé, vous avez vu comment c'est, l'autre poison vivant là de Poutine a buté Navalny comme pour le pauvre malheureux. Bref, tout va très mal. On peut pas dire que j'avais décidé aujourd'hui à travers Ernestine d'Aran Abadi
de vous révolter, voilà, et de défendre
Joshua,
le rire.
Joshua et son pote Hubert et Joshua, voilà. Et on va terminer avec Chronique du Château Faible. Par rapport, on va dire carrément par rapport à Salomé Laoche et d'Aran Abadi, on est presque dans le mainstream parce que on est chez Flux Glacial.
Ah, c'est mou ça, non?
Non, c'est mou, mais ça dépend. Ça dépend qui trouve-t-on chez Flux. C'est rare que ça soit mou quand même. Ça peut arriver que parfois ça soit moins dur, mais que ça soit mou. Bref, Chronique, je vous avais dit
subtil.
Déjà tout grand bien de monsieur Mazury, que l'on peut découvrir si on est lecteur de, comment dirais-je, la revue dessinée. Il illustre pas mal de reportages, il fait des reportages, comment dirais-je, dans la revue dessinée. Et autrement, moi je lui reconnais ni vu ni lu, excellent, on a l'impression d'un espace de bouquin très parisien, où un critique veut dire, je l'ai pas vu, mais je l'ai pas lu, mais je vais vous en dire tout le mal ou tout le bien, etc. C'est génial. Et avec, comment, Torrent d'amour, il aborde la problématique de l'amour et des rapports hommes-femmes, mais j'en ai déjà parlé. Avec le Chronique du Château Faible, c'est l'arrivée de la mort. Ben oui, que vous soyez petits ou grands, la mort finit toujours par vous retrouver. Mais sauf quand vous êtes chez monsieur Mazury, elle va prendre un peu plus de temps, parce qu'au début de l'histoire, on voit une bulle qui nous dit « je peux pas blairer la campagne ». C'est la mort qui erre, la campagne à la recherche du château du roi. Ça les écorcherait, les bouseux, de mettre des panneaux, impossible de trouver le bon château. Allez, oublie pas, t'as une boussole, topographie, c'est ton deuxième prénom. D'ailleurs, en coupant par là, tu vas droit nulle part. Des insectes à la con, des ronces vicieuses et des forêts moisies, mais quelle vérole verte! Ah, ça s'éclaircit, pouf, rideau de pluie. La tempête maintenant et des grêlons, j'y vois plus rien, pays putride. Et à la fin, Sainte-Louze, qu'est-ce que je fous là? On le voit même plus, il est au fond d'un canyon. Bref, la mort a du mal à rejoindre le roi, mais finit quand même par le rejoindre. Et l'arrivée de la mort chez le roi est assez cocasse parce que, il va falloir que, effectivement, l'entourage prévienne le roi qu'il va mourir. Alors, on apprend que le roi va mourir beaucoup plus vite que prévu et dans d'atroces souffrances. Donc, vous voyez, il faut essayer de lui le dire, on sait pas trop comment faire, est-ce qu'on va opérer par, je sais pas, comment dirais-je, on va être direct, etc. Son proche conseiller finit par aller le voir et dit « Alors sire, on va faire un petit ribuimé. Chouette, j'adore les devinettes !» Et après, alors, il a compris. Non, pas tout à fait. Enfin bref, ils ont du mal à expliquer que la mort va venir le chercher. D'autant que quand la mort débarque effectivement dans la chambre du roi, elle lui dit « Surprise, surprise, vous êtes la mort. Non, je suis Liliane, la reine des bananes. Ouf. Bien sûr que non, je suis la mort. C'est bien la peine que je me fringue comme un baltringue. Déjà que la robe de bure, ça gratte, c'est une horreur, et en plus ça pèse une tonne et la bure quand c'est mouillé ça schlingue, un bonheur. Bref, vous l'aurez deviné, la mort est un peu atypique, mais ne nous leurrons pas, la mort est là pour faire son ouvrage et elle va le faire, elle va finir par emmener le roi, mais le problème c'est de trouver un successeur. Et qui peut prendre la succession du roi. C'est assez compliqué. D'autant que la seule chose qui pourrait un petit peu, je dirais, nous rassurer quant au futur roi, c'est sur le nom, parce qu'on se demande comment il va s'appeler. Et alors, c'est soit Sulfureux le Putride ou Adolphe le Gros. Bref, on est véritablement, on pourrait dire, dans une espèce de... les noms, ils ont tous des noms un peu véreux. C'est une véritable réussite chronique du Château Faible qui a été prépubliée dans Flux Glacial, que nous devons à Monsieur Mazuri. Le dessin est élégant, je ne redécris plus le trait de Mazuri. Alors, on est dans une sorte de caricature élégante. Alors, vous qui arrivez mieux que moi à cerner un trait, vous me dites pas que c'est du... moi, je dirais...
C'est du cossu.
Non, voilà. J'attendais que vous me disiez ça, non. Moi, je dirais du Petit Roulet. Est-ce que vous vous rappelez de Petit Roulet dans les années 80?
Ouais, pas faux.
Ah, des dessins...
Il a aussi une tête d'amibe, lui, hein. Je suis désolé.
Ouais, c'est vrai que parfois, ils ont des sales gueules. Et on est dans le dessin stylisé, mais Monsieur Mazuri se fait plaisir, il crée son univers avec des personnages qu'ils ont effectivement...
Ils ont soigné l'objet, hein. C'est chez qui, ça?
Fluide.
Ah oui, ouais, belle couverture.
Ouais, très belle couverture. Et c'est exceptionnel. Vous savez, quand on ouvre la couverture, il y a parfois un petit dessin. Et là, entre ce qui est collé derrière la première page et ce qui est collé derrière la dernière page, vous savez quoi? C'est pas les mêmes textes. Il faut vraiment avoir envie de fouiller. Merci, Monsieur Mazuri. Merci des éditions Flux Glacial. Je vous ai donc... Mes petits amis, soyez une sélection, afin que vous ne tombiez pas en pleine déprime sous ce temps pourri et avec ces nouvelles de merde.
Voilà qui vient clore cette 473e émission de Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B. N'hésitez pas à nous envoyer vos chroniques.
N'hésitez surtout pas.
Moins on travaille. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles lectures, de nouvelles chroniques, de nouvelles musiques. En attendant, suivez-nous sur le blog. Yes, au revoir.
Au revoir.
À la semaine prochaine, tant qu'on a le droit.